Allez, de retour dans l'émission, et puis je vous propose de découvrir cet ouvrage « Plus rien n'échappe à l'ARN messager », éditeur Guy Trédaniel, avec ce biologiste, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, Jean-Marc Sabatier. Merci d'être avec nous et bienvenue.
Oui, bonjour. Merci pour l'invitation et bonjour aux auditeurs.
Alors, votre livre, c'est, on pourrait dire, une prise de conscience, peut-être une alerte, donc scientifique et lanceur d'alerte, on pourrait dire, vous donner votre vision, vous donner aussi des points de vigilance qu'on devrait avoir collectivement pour maîtriser une nouvelle technologie, l'ARN messager, et faire qu'elle ne se retourne pas contre nous en tant qu'espèce. Peut-être je voulais avec vous parcourir un peu votre formation, votre parcours. Doctorat, voilà, on le disait, directeur de recherche au CNRS.
Oui, qui s'exprime en son nom propre.
Comment ?
Et qui s'exprime en son nom propre.
Et qui s'exprime en son nom propre. J'en profite pour vous demander si vous avez des conflits d'intérêts avec l'industrie et les sujets qu'on va traiter.
Non, j'ai absolument aucun conflit d'intérêts.
C'est normalement obligatoire de le demander pour les médias,
mais
c'est trop peu souvent. Préciser. Et puis on va revenir quelques années en arrière avec une de vos spécialités, la compréhension du système rénine-angiotensine, le SRA. C'est un des domaines d'expertise que vous maîtrisez. Et je voulais que vous nous réexpliquiez, vous nous synthétisiez, résumiez ce que vous avez établi comme parallèle avec la maladie du Covid. En gros, nous on a compris que ça touchait la respiration, et ce que vous expliquez, c'est que c'est beaucoup plus vaste que ça et que toutes les cellules du corps sont touchées.
Oui, tout à fait, oui. Ben, en fait, en mars 2020, donc très tôt, hein, tout début de la pandémie, j'avais décrit avec mes collaborateurs le dérèglement d'un système physiologique qui fait fonctionner le corps humain, qui est le système rénine-angiotensine. Donc, si vous voulez, c'est un système qui est à la fois enzymatique et hormonal, et qu'on retrouve absolument dans toutes les cellules du corps humain, que ce soit des cellules immunitaires, des cellules nerveuses, des cellules épithéliales, endothéliales, et qui contrôle en fait le fonctionnement de toutes nos cellules. Et ce qu'on a décrit en fait en mars 2020, c'est que le virus SARS-CoV-2 est capable de déréguler ce système, justement parce que la protéine spike du virus est capable de se fixer sur un récepteur de ce système, et du coup, en agissant sur ce récepteur, il dérégule la totalité du système, et évidemment, il y a des répercussions, justement, sur le corps humain, notamment des répercussions délétères.
C'est-à-dire que
ça entraîne les pathologies Covid.
Est-ce que cette découverte, cette compréhension, cette vision, elle explique par exemple les Covid longs, mais est-ce qu'elle explique aussi les effets secondaires de vaccins Covid ? Est-ce que c'est un point commun ?
Oui, il y a un point commun, et on l'a décrit en fait très tôt. Est-ce que la protéine spike dérégule ce système ? C'est-à-dire que la protéine spike se fixe sur un récepteur cellulaire qui s'appelle ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, et en se fixant sur ce récepteur, elle gêne la dégradation en fait d'une hormone qui s'appelle l'angiotensine 2, et cette hormone suractive un récepteur délétère. Et le problème avec la protéine spike vaccinale, c'est qu'elle a été mal choisie et qu'elle est capable de reconnaître ce récepteur, et du coup, elle est capable également de déréguler ce système. C'est pour ça qu'on voit des pathologies, en fait, qui sont induites par la protéine spike virale ou vaccinale. Et donc, l'injection vaccinale peut être responsable de Covid long, c'est-à-dire d'effets qui perdurent dans le temps, des pathologies Covid.
Et la première partie de votre livre revient justement sur cette compréhension du Covid, les différents traitements. Et à la lumière du fonctionnement du SRA, le système rénine-angiotensine, quelles étaient les molécules, quels étaient les traitements, quelles étaient les recommandations, peut-être aussi les choses que vous pouviez préconiser.
On avait proposé à l'époque une série de molécules pour agir justement sur la régulation du système rénine-angiotensine. notamment par exemple des antagonistes du récepteur AT1R, mais aussi on a recommandé très tôt en fait l'utilisation de la vitamine D, une supplémentation importante de vitamine D, donc c'était très tôt, hein, c'était en 2020, puisque on a vu que la vitamine D était capable d'agir sur ce système et donc freiner la suractivation de ce système, qui est une suractivation qui est délétère. Donc il y avait un effet vraiment bénéfique de la vitamine D, parce que la vitamine D agit tout en amont de ce système, c'est un inhibiteur d'une enzyme qui s'appelle l'arénine, et qui initie en fait la cascade de dégradation des hormones, qui est à l'origine justement de la suractivation d'un récepteur qui est délétère, qui s'appelle AT1R. Voilà.
Le rôle de la vitamine D est central. Finalement, on comprend à la lumière de votre vision et de votre domaine d'expertise que, justement, la vitamine D ne s'oppose pas au vaccin, mais au contraire, qu'elle peut à la fois se combiner dans les traitements et dans la prévention de nombreuses maladies d'ailleurs, mais aussi, en l'occurrence, de la Covid. On vient de passer un moment aussi en interviewant le docteur Schwartz. Vous avez une convergence, c'est aussi l'action sur la mitochondrie, cette véritable usine du corps. Quel lien entre la mitochondrie et le SRA ?
Le lien entre la mitochondrie et le SRA ?
Oui.
C'est ça ?
Et la vitamine D ?
C'est très simple. Le SRA, quand il est dérégulé, par exemple par la protéine spike, ça conduit donc à une suractivation d'un récepteur qui s'appelle AT1R. Et ce récepteur, AT1R, quand il est suractivé, il active une enzyme qui s'appelle NOX, qui est une NADPH oxydase, qui produit des particules réactives de l'oxygène. Et ces particules réactives de l'oxygène sont soit des précurseurs de radicaux libres, soit des radicaux libres. Et comme il y a un excès, justement, de ces radicaux libres, ça active en fait un canal qui s'appelle un canal potassium ATP dépendant, qui est à la membrane mitochondriale. Et donc, il y a un influx à l'intérieur de la cellule de potassium qui active la production de particules réactives de l'oxygène au niveau de la mitochondrie, et ça a un effet délétère sur la mitochondrie. Donc, le système rénine-angiotensine, lui, pilote le fonctionnement de la mitochondrie. On le retrouve présent à la membrane interne et externe de la mitochondrie, et contrôle toutes les étapes du fonctionnement de la mitochondrie, et notamment les étapes de la chaîne respiratoire.
Donc on est quand même en lien aussi avec ce que dit le docteur Schwartz sur le...
On est complètement en lien avec le cancer, puisque lorsqu'on utilise des inhibiteurs du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire des molécules qui sont importantes pour le bon fonctionnement du système rénine-angiotensine, hein, l'homéostasie du système rénine-angiotensine, on a un effet antitumoral. Par exemple, il a été décrit que des inhibiteurs dans l'enzyme de conversion ou des sartans qui sont des antagonistes, c'est-à-dire des bloqueurs du récepteur AT1R qui est le récepteur délétère, ben, il a été montré que ça inhibe par exemple le cancer de la prostate, le cancer du sein, que ça inhibe les métastases, etc. Donc il y a un effet direct du système rénine-angiotensine sur le cancer. Et notamment, quand il est dérégulé, c'est lui qui induit des cancers. Parce qu'il a un effet déjà pro-angiogénique quand il est suractivé, c'est-à-dire il favorise la vascularisation des tumeurs. Et puis, ce système est impliqué dans la différenciation et la multiplication des cellules. Et on sait que le cancer, c'est un développement anarchique des cellules.
Et dans ce domaine d'expertise du SRA qui est le vôtre, est-ce qu'on a, partant de cette compréhension, et qui est un peu complexe, mais que vous venez de nous détailler, des conseils en termes d'alimentation, de mode de vie, ou déjà des molécules, vous nous avez parlé de la vitamine D, qui fonctionne, mais à part celle-là?
Oui, ben, idéalement, pour bien faire fonctionner le système rénine-angiotensine, qui contrôle en fait le fonctionnement de tous nos tissus et nos organes, il faut idéalement donc avoir un taux plasmatique de calcidiol, hein, qui est une forme monomodifiée de la vitamine D, supérieure à 50 nanogrammes par millilitre. Hein. Idéalement, entre 50 et 100 nanogrammes de calcidiol par millilitre. Donc, ce n'est pas du tout une dose toxique, hein, parce que les effets secondaires d'une hypervitaminose D, c'est au-delà de 150 nanogrammes de calcidiol par ml. Idéalement, il faut prendre aussi 200 microgrammes de vitamine K2, la vitamine K2 qui gère l'homéostasie du calcium, et donc qui fait un bon couple avec la vitamine D. On peut supplémenter aussi avec des oméga 3, avec de la taurine, qui permet une bonne digestion, donc des acides, des lipides en fait d'une manière générale, et un bon fonctionnement nerveux et cardiovasculaire. Il faut également du magnésium, qui va être très important, parce que le magnésium permet l'activation de la vitamine D, qui est inactive. Hein, quand on se supplémente en vitamine D, en fait, on se supplémente en cholécalciférol, donc en vitamine D3, ou en ergocalciférol, c'est-à-dire en vitamine D. Mais ce sont des formes inactives qui ont besoin d'être métabolisées deux fois, au niveau du foie et du rein, par deux enzymes. Et ces enzymes utilisent le magnésium, justement, comme cofacteur. Donc, comme 80% des personnes manquent de magnésium, à ce moment-là, la vitamine D n'est pas activée.
J'avais lu aussi, d'ailleurs, je rebondis sur le chiffre que vous venez de donner, j'avais lu aussi une étude sur donc les périodes hivernales, c'était région parisienne, qui avait 80% des personnes qui étaient en déficit de vitamine D, cette fois.
Oui, tout à fait. Il y a 80% des personnes qui ont une concentration plasmatique de calciol qui est inférieure ou égale à 30 nanogrammes par ml, et donc une certaine partie des personnes carencées carrément en vitamine D. Hein. On estime qu'on est carencé quand on est inférieur à 12 nanogrammes de calciol par ml. Et là, c'est très problématique parce que l'organisme ne peut pas bien fonctionner quand on est insuffisant en vitamine D. Et donc, cette vitamine D, elle est importante pour tous les types de pathologies. Hein. C'est-à-dire, c'est aussi bien pour les pathologies nerveuses, neurodégénératives, donc cardiovasculaires, gastro-intestinales, l'auto-immunité, les cancers. C'est vraiment indispensable d'avoir un bon taux plasmatique de vitamine D parce que l'organisme ne peut pas bien fonctionner s'il n'y a pas suffisamment de calcidiol. Hein.
Voilà. Dans
Alors,
votre
parallèlement,
ouvrage...
il faut du zinc aussi.
Oui, du zinc.
Ce qui est important de savoir, il faut entre 10 et 40 mg de zinc par jour. Le zinc est important pour beaucoup de raisons. Hein. Voilà, et notamment, ça permet d'activer des facteurs de transcription qui sont induits justement par la présence de la vitamine D. Et puis, il faut prendre des antioxydants aussi, donc du N-acétylcystéine et ou du glutathion de la vitamine C, voilà, entre autres. Hein. Bon, il y a d'autres molécules qui peuvent être importantes quand on a des pathologies sérieuses à prendre en plus, comme des complexes de vitamine B, et du sélénium aussi.
Alors, je vous interroge, Jean-Marc Sabatier, sur votre vision biologique des choses. Le docteur Schwartz, par exemple, remet en question le concept d'antioxydant. Et au contraire, enfin, lui, il considère qu'au niveau...
Je vous entends très mal. Hein.
Ah oui, pardon.
Je vous entends très, très faiblement.
Oui, je rebondis sur ce que vous disiez sur le glutathion, notamment les antioxydants. Pour le docteur Schwartz, il avait la vision que, en fait, finalement, ce dont a besoin l'organisme, c'est d'oxydation. Alors, par exemple, le sport qui va oxygéner l'organisme. Et ce qu'on appelle les antioxydants, quelle est votre vision? Est-ce qu'ils sont réellement des antioxydants ou est-ce qu'ils agissent à un niveau atomique, à un niveau du très petit, comme de l'oxydation, le glutathion notamment? Qu'est-ce que vous lui répondez par rapport à ça, les questions
oui.
qui se posent?
J'ai eu une réunion Zoom il y a deux jours avec lui, donc à ce sujet. Oui, les antioxydants, ils protègent des radicaux libres. Des radicaux libres, ce sont des substances qui sont très délétères pour les cellules. Mais quand on utilise des fortes doses, par exemple, de vitamine C, la vitamine C, par exemple, se comporte comme un prooxydant. Vous voyez, il a parlé, par exemple, du bleu de méthylène. Le bleu de méthylène, c'est un prooxydant. Ce sont des molécules, par exemple, le DMSO, du méthylsulfoxyde, qui est utilisé aussi, ce sont des prooxydants. En fait, les prooxydants, comme les radicaux libres, sont utilisés par le corps pour combattre les microbes et pour combattre aussi les cellules tumorales. Donc, c'est quelque chose de très important. Par exemple, si vous voulez, lorsqu'il y a une activation, par exemple, de la NADPH oxydase NOX, il y a une production donc de radicaux libres. Parmi ces radicaux libres, par exemple, vous avez de l'H2O2, du peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène, il va être dégradé par une enzyme qu'on a dans les cellules qui s'appelle la catalase. Or, les cellules tumorales, justement, ont une déficience de l'activité catalase, ce qui fait que des prooxydants comme le bleu de méthylène, etc., peuvent avoir une activité justement délétère sur les cellules tumorales parce qu'elles ne sont pas capables de dégrader le peroxyde d'hydrogène, parce qu'elles ne sont pas équipées justement de l'enzyme catalase. Vous voyez? La vitamine C aussi, qui est utilisée par certains à très forte dose, hein. Il y en a qui utilisent de 12 jusqu'à 30 grammes en intraveineux, a aussi une activité prooxydante. Donc les transferts électroniques, de toute façon, sont très importants, hein, au niveau cellulaire, hein.
On a compris dans cette description que vous faites, on ressent et on comprend que le corps humain et cet équilibre, cette homéostasie, je pense que vous avez dit le terme tout à l'heure, avec tous les produits que vous avez cités, la vitamine K2, vitamine D, vitamine C aux doses, oméga-3, taurine, magnésium, zinc, antioxydants, dont le glutathion, que c'est vraiment une formule 1, le corps, et que vraiment cette homéostasie, cet équilibre, c'est un défi permanent, c'est presque une nouvelle façon de considérer la biologie du corps. Et du coup, qui pourrait aussi faire une révolution dans la médecine, finalement.
Oui, tout à fait, oui. Oui. Et en ça, l'alimentation, bien sûr, est très importante.
Dans la première partie de votre livre, vous revenez sur toutes les questions. Et justement, tous ces produits-là, on a compris, si j'ai bien saisi, que tous ces produits que vous avez cités, ils vont jouer, par exemple, sur de nombreuses maladies, dont le Covid, mais aussi sur les effets potentiel secondaire du vaccin Covid, les effets secondaires qui sont liés aussi à la spike qui est commune à la maladie Covid et au vaccin Covid. Et justement, cette molécule spike, avec ses spécificités que vous nous expliquiez tout à l'heure, pose question quant à son origine animale. Et ces particularités que vous avez décrites tout à l'heure dans votre livre, vous y revenez, vous font penser que, comme de nombreux scientifiques, qu'il s'agit justement plutôt d'un gain de fonction. Donc, on a rajouté une fonction au laboratoire. D'ailleurs, le gain de fonction, qui est un vrai problème qu'on n'a pas traité au plan mondial, puisqu'on a interdit, par exemple, le clonage. Mais sur le gain de fonction, ça a été un moment interdit, puis on a levé l'interdiction. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation par rapport au gain de fonction aujourd'hui? Est-ce qu'on
oui.
on peut potentiellement
ben, là,
refaire...
Là, actuellement, ils ont réété interdits aux États-Unis. Alors, il faut savoir qu'en 2014, il y a Obama qui avait interdit l'étude des gains de fonction, et ça a été rétabli en fait en décembre 2017 lors de du premier mandat en fait de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Alors, ce qui est clair, c'est que lorsqu'on regarde la nature en fait du virus SARS-CoV-2, on voit clairement qu'il s'agit d'un gain de fonction. Pourquoi on voit ça? Ben, il y a plusieurs raisons. Déjà, quand on étudie le génome du SARS-CoV-2, on voit qu'il est parfaitement compatible avec un virus qui a été reconstruit. Parce qu'on peut fabriquer des virus, on peut reconstruire des virus. Et quand on analyse ce génome, on voit, lorsqu'on regarde justement les sites restrictases dans le génome, on voit que c'est compatible avec un virus qui a été reconstitué. D'autre part, il a, dans la protéine spike, une information génétique qui permet en fait une reconnaissance par une enzyme qui s'appelle la furine. Donc la furine, c'est pour les auditeurs, c'est une enzyme qui reconnaît un motif tétrapeptidique au niveau de la protéine spike. La protéine spike, c'est une molécule de 1273 résidus d'acides aminés, et au sein de cette molécule, vous avez un motif qui est un motif reconnu par la furine. Alors cette enzyme, elle reconnaît normalement un motif particulier qui s'appelle R. Donc c'est une arginine, X, donc un acide aminé quelconque, et après c'est K ou R, c'est-à-dire deux acides aminés basiques, ou R. Donc c'est R, X, K ou R et R. Et en fait, au niveau de la protéine spike du coronavirus, on voit un site qui est PRRAR, donc une proline, deux résidus d'arginine, une alanine et un résidu d'arginine. Or, c'est un site qui est reconnu par la furine, mais c'est un site qui a été breveté par Moderna 3 ans avant la pandémie. Donc Moderna a déposé le brevet, le premier auteur du brevet c'est Bancel, hein, c'est le CEO de Moderna, et il faut savoir que ce motif se retrouve que dans la protéine spike du SARS-CoV-2 et n'est pas connu, disons, n'a pas été identifié dans d'autres microbes, notamment d'autres coronavirus. bien que les sites furines puissent exister dans certaines protéines spike de coronavirus, mais pas ce site-là. De plus, c'est un site qui se trouve-t-il entre deux domaines qui s'appellent S1 et S2. Donc la probabilité pour que ce soit un site entre guillemets naturel et localisé exactement entre S1 et S2, bon, ben, la probabilité, elle est quasiment de zéro, quoi.
C'est ce qui vous fait
donc,
penser.
On voit bien que ça a été bidouillé. D'autant
c'est
plus.
Ce qui vous
que
fait penser
domaine...
que en fait, il n'y a pas, il y a très peu de chances que ce soit par hasard, parce que tous les mécanismes complexes que vous avez décrits montrent que c'est une volonté, quelque chose issu d'une recherche et d'une expérimentation. Et justement, ce brevet déposé par Moderna, ça veut dire qu'il aurait pu être sous-traité par des laboratoires et des laboratoires P3, P4, et que un gain de fonction aurait pu être élaboré à partir de ce brevet,
oui,
par
oui.
exemple.
Oui. En plus, si vous voulez, le SARS-CoV-1 de l'épidémie de 2002 n'a pas de site furine. Donc ça sous-tend qu'il a été rajouté dans la protéine spike du SARS-CoV-2. Et puis dans le SARS-CoV-2, dans cette protéine spike, vous avez aussi un site qui s'appelle un adésiotope, vous avez une séquence qui s'appelle RVD, hein, donc c'est arginine, glycine, acide aspartique, et c'est un site particulier qu'on ne retrouve pas non plus dans la protéine spike du SARS-CoV-1. Et en fait, ce petit domaine de trois résidus d'acides aminés, il est aussi problématique, parce qu'il permet à la protéine spike, justement, de reconnaître des intégrines membranaires qui ont été identifiées. Hein. Il y en a une qui s'appelle alpha V, bêta 3, l'autre alpha 5, bêta 1. Et en fait, l'effet est délétère aussi sur ces récepteurs. Quand la protéine spike se fixe sur ce récepteur, elle a une activité d'apoptose, c'est-à-dire elle induit une mort cellulaire programmée parce qu'elle active un système qui s'appelle caspase-3, enfin, qui conduit à la mort cellulaire programmée. Donc, on a l'impression que tout a été fait dans cette protéine spike pour qu'elle soit délétère. C'est ce qu'on voit. Il y a énormément de pathologies qui sont associées à la protéine spike. On appelle même cela des spikeopathies. Et puis, pour les auditeurs, il faut savoir que les effets secondaires des vaccins Covid, donc depuis la pandémie, eh ben, les effets secondaires qui ont été rapportés au VAERS, qui est le système américain de recensement en fait des effets secondaires des molécules et puis des vaccins, et ben c'est le nombre de signalements qui ont été faits d'effets secondaires avec ces vaccins Covid est supérieur au nombre total de tous les vaccins utilisés chez l'homme depuis 36 ans. Donc, vous voyez les effets secondaires.
Oui, mais comme il y a beaucoup... En fait, c'est complexe que vous nous dites, parce que comme il y a beaucoup... c'est le vaccin qui est peut-être le Covid qui a été le plus donné à la population mondiale. Donc, est-ce que c'est rapporté au nombre de... pour 1000 personnes?
Là, c'est l'ensemble de tous les vaccins sur une période de 36 ans. Hein.
Donc, a priori...
Ça inclut les vaccins contre la grippe, contre l'hépatite,
donc,
contre toutes les pathologies. Donc, c'est énorme.
C'est énorme, ça a retouché, finalement, ce que vous dites, c'est que c'est sur ces 36 années, finalement, tous les autres vaccins, ça fait encore plus de monde que toutes les personnes vaccinées par le Covid, c'est ça?
Non. Ça veut dire qu'il y a moins d'effets secondaires rapportés pour l'ensemble de tous les vaccins sur une période de 36 ans, que le nombre d'effets secondaires rapportés pour la vaccination anti-Covid.
Donc, beaucoup plus d'effets secondaires. Et justement,
beaucoup plus d'effets secondaires. Que, d'ailleurs, il y a plus de 2 millions de Covid longs hein, en France.
Et d'ailleurs, j'en reviens à ça sur l'idée que c'est un gain de fonction, donc un laboratoire amélioré en laboratoire, un virus amélioré en laboratoire, c'est pas uniquement votre analyse, c'est le professeur Luc Montagnier, prix Nobel, qui est aujourd'hui décédé, ou le sénateur
oui,
Ron
oui.
Paul aux États-Unis, beaucoup de scientifiques dans le monde. Justement, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport au vert, c'est américain et la signalement record d'effets secondaires. Ce qu'on appelle un vaccin à ARN messager, c'est pour vous pas la bonne dénomination, ça devrait être plutôt une thérapie génique, si je comprends bien. C'est-à-dire que, en
oui,
fait,
oui,
par contre, ça impliquerait beaucoup plus d'encadrement et de blocage pour les laboratoires. Du coup, eux, ils sont partis plutôt sur une dénomination de vaccin, mais pour vous, ce n'est pas la bonne dénomination qui n'est pas protectrice non plus de la population qui prend ces vaccins.
Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, ils ont changé la définition du vaccin avant 2019. En fait, ce n'est pas du tout de la vaccination, c'est de la thérapie génique. Hein. Pourquoi? Parce que dans ces vaccins Comirnaty de Pfizer-BioNTech et Spikevax de Moderna, on utilise de l'ARN messager avec des nanoparticules lipidiques. Hein. Voilà, avec du cholestérol, des phospholipides, des lipides PEGylés, des lipides cationiques. Mais ils ont fait exprès de changer la définition d'un vaccin, justement pour pouvoir appeler ces ARN messagers des vaccins. Parce que, en fait, si on parle de thérapie génique, à ce moment-là, il y a énormément de tests qui sont demandés. C'est-à-dire que pour faire enregistrer un vaccin, enfin, par rapport à une thérapie génique, c'est beaucoup plus simple de faire enregistrer un vaccin qu'une thérapie génique. Thérapie génique, ça implique des tas de tests, dont des tests d'identification des composés qui sont dégradés, la biodistribution de ces composés, la demi-vie de ces composés, des tests de tératogénicité, enfin bon, il y a une multitude de tests qui
Donc beaucoup
ne
moins
sont pas du tout
d'argent,
demandés.
beaucoup plus de contraintes pour l'industrie
Ah ben oui, ben ils ne seraient
et
jamais passés.
beaucoup moins d'argent
Si
aussi
ça
pour
avait été
l'industrie.
transparent, c'est-à-dire que si ces vaccins, entre guillemets, hein, parce que ce ne sont pas des vaccins, avaient été considérés comme des thérapies géniques, ils n'auraient jamais pu passer les tests. Bon, voilà, même avec la complaisance des autorités sanitaires, avec beaucoup de corruption, etc., ils n'auraient jamais pu passer les tests. Hein, parce que là, on ne sait rien. Hein, ils n'auraient jamais déjà pu utiliser ces ARN messagers, justement, dans une approche vaccinale.
Alors,
C'était pas possible parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Vous savez, il y a énormément. Lorsqu'il y a la traduction de l'ARN messager, on sait actuellement qu'il n'y a pas que la protéine spike qui est produite. Ce qui est produit, c'est une multitude aussi de protéines inconnues. On parle de protéines hors cible ou de protéines aberrantes ou de protéines fantômes. Parce que dans l'ARN messager vaccinal, qui fait à peu près 4300 nucléotides, ils ont substitué un des nucléotides par un dérivé méthyl-1-pseudouridine, qui conduit en fait justement à la production de molécules qui n'ont rien à voir avec la protéine spike. Parce que les ribosomes, c'est-à-dire la machinerie de traduction des ARN messagers, se trompent et ne reconnaît pas bien la méthyl-1-pseudouridine. Ce qui fait qu'en se trompant, elle incorpore des acides aminés qui n'ont rien à voir avec la protéine spike. Et donc, il y a la production d'une multitude de protéines inconnues qui vont également stimuler le système immunitaire et qui vont être à l'origine de désordres métaboliques, de cancers, d'auto-immunité. Voilà. Et ça a été démontré formellement déjà en décembre de 2023, le 6 décembre 2023, dans un article de Nature. Mais c'était déjà connu avant la pandémie, avant 2019. Ça avait déjà été décrit dans des articles qui montraient que ce dérivé était problématique parce qu'il conduit justement à la production de molécules mutantes.
Alors, dans votre livre, Jean-Marc Sabatier, vous parlez aussi de l'hétérogénéité des lots, c'est-à-dire que certains lots sont totalement différents. Il y a eu aussi des études sur une plus grande concentration d'ADN qu'initialement
Oui,
prévu. Beaucoup
alors.
de choses sur la qualité des lots, sur la qualité des vaccins et sur leur uniformité. On avait aussi interviewé ici dans ces studios. Cette scientifique dont je vais retrouver le nom qui travaille encore pour l'industrie pharmaceutique et qui décrivait aussi un certain nombre d'aberrations dans les protocoles, dans les vérifications d'études, puisqu'elle est spécialisée dans la relecture des études et la validation des études, donc aussi un manque d'homogénéité et de vérification dans la relecture des études. Bon, tout ça a été fait dans l'urgence. Aujourd'hui, ce que vous nous expliquez pour le VERS et la comparaison de tous les vaccins à ce jour versus Covid et qu'il y a plus d'effets secondaires, nettement
Oui.
plus pour le vaccin anti-Covid, c'est...
Tout en sachant.
C'est inquiétant dans votre livre parce que vous nous expliquez qu'il y a des nouvelles générations de vaccins ARN messagers qui arrivent, auto-amplifiant et trans-amplifiant notamment. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut comprendre à travers ça que ces vaccins qui seraient plus puissants auraient aussi potentiellement des effets secondaires plus puissants, plus importants, alors que déjà la situation de base c'était une explosion des effets secondaires?
Oui, tout à fait. Alors, je tiens à préciser que il a été décrit par Kennedy que les remontées sur les effets secondaires à AVAERS, hein, l'organisme américain, n'était que de 1%. C'est-à-dire que le nombre d'effets secondaires, normalement, devrait être multiplié par 100.
Bon, ça, Kennedy, c'est donc
chose.
c'est le
L'autre
l'équivalent.
chose.
Kennedy, c'est le ministre de la Santé, l'équivalent du ministre de la Santé américain,
Voilà, exactement. Oui.
actuellement.
Oui. L'autre chose c'est que, à préciser, c'est que le livre a été coécrit avec Estelle Fougère, hein, qui est journaliste scientifique. Alors, en ce qui concerne les ARN messagers, bon, c'est vraiment la folie vaccinale. À l'horizon 2030, ils comptent changer tous les vaccins actuels, c'est-à-dire à peu près 500, par des vaccins ARN messagers. À peu près 120 en médecine humaine, le reste en médecine vétérinaire. Et ce qui est développé fortement en ce moment, ce sont des vaccins ARN messagers auto-amplifiants. Alors, pour les éditeurs, pour pas que ce soit trop compliqué, il faut juste savoir qu'un ARN messager auto-amplifiant, c'est un ARN dans lequel on a introduit, au niveau de l'ARN messager, bon, c'est une région entre les régions qui s'appelle 5' primitaire et une région qui s'appelle ORF, on a introduit une information génétique qui va coder pour un complexe de molécules. Ce sont des molécules non structurales qui ont une activité enzymatique et qui sont dérivées d'un alpha-virus qui s'appelle le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et pourquoi on a rajouté, en fait, cette information génétique dans l'ARN messager? Eh bien, c'est pour que, lors de la traduction de l'ARN messager auto-amplifiant, on ait justement la production de ces protéines non structurales dérivées d'un virus. Il y en a quatre, hein, actuellement, qui sont utilisées, qui s'appellent NSP1, NSP2, NSP3, NSP4. Et ces molécules sont capables d'agir de concert et elles ont une activité ARN polymérase, ARN dépendante. Donc, bon, la majorité des auditeurs ne sauront pas ce que ça veut dire, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est capable de refabriquer, à partir de la matrice d'ARN messager, de nouvelles molécules d'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on ordonne à nos cellules de fabriquer en permanence de l'ARN messager auto-amplifiant en faisant des copies. Donc, vous voyez le problème. C'est qu'on a vu déjà les effets délétères énormes qu'on a eu avec les vaccins ARN messagers anti-Covid. On peut comprendre ce que ça peut donner avec un ARN messager auto-amplifiant.
Alors,
il faut
justement,
savoir qu'en France, il y a déjà...
Je voulais vous, pardon de vous couper, mais...
Oui.
Il y a aussi, là où on rentre dans le concret de nos vies de tous les jours, c'est qu'il y a un tableau qui m'a un peu inquiété dans votre livre sur les essais actuellement thérapeutiques, les phases d'essai de ces vaccins nouveaux, nouvelle génération, auto-amplifiants, peut-être transamplifiants, vous allez nous dire. J'en ai vu qu'il y avait une dizaine qui étaient déjà validées et de mémoire...
Oui, il y en a 33.
Ouais.
Il y en a 33 officiellement. En essai, donc voilà, il y en a probablement
une trentaine
plus que
encore
ça.
En essai,
dont
et donc
4 contre le cancer.
D'accord. Et donc,
donc on
en
voit
fait...
la folie parce que déjà les ARN messagers, on voit que ça induit déjà beaucoup de cancers, de turbocancers. Il y a une augmentation de plus de 30% hein, des cancers. Et pour certains cancers, comme le cancer du pancréas, une augmentation de 60%. Donc utiliser de l'ARN messager auto-amplifiant pour lutter contre le cancer, c'est vraiment n'importe quoi. Hein.
La vaccination ARN messager va toucher les élevages et je voudrais qu'on termine l'émission en donnant aussi des pistes de compréhension et des pistes d'action pour se protéger, puisque par exemple, en préparant cette émission, j'ai regardé un peu par curiosité, appelé quelques producteurs qui avaient des poules, qui avaient donc les œufs. En fait, chez les producteurs d'œufs, c'est dissocié entre une partie de la profession qui s'occupe de proposer des poules, la ponte, etc. Et la ponte des œufs pour avoir des poules et des poussins.
Oui.
Et d'autre part, ceux qui ont les élevages de poules qui ne font que des œufs à destination de consommation. Je ne sais pas si j'étais bien clair, mais le problème auquel on est confronté en consommateur, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité. C'est-à-dire que même les filières bio... On n'a aucune
oui,
vision sur, en amont, est-ce qu'elles ont été vaccinées par un vaccin ARN messager ou pas? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, par exemple,
surtout
sur les poules et les œufs? Est-ce que le vaccin ARN messager est déjà en activité dans ce domaine?
Alors, si vous voulez, actuellement, chez les animaux, d'enregistrer, il n'y a qu'un vaccin qui s'appelle le SEVA. Il s'appelle exactement le SEVA Response AIH5, parce qu'il est dirigé contre l'hémagglutinine H5, pour lutter contre la grippe aviaire chez le canard, qui est le H5N8. Donc, c'est le seul actuellement qui est en cours. C'est-à-dire qu'il y a eu une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, qui a été délivrée en 2023. Lui-même n'a été utilisé que à partir de 2024. Il y a à peu près 35 millions de canards qui ont été injectés avec. Voilà, l'ATU a été renouvelée jusqu'en 2027 en incluant les volailles, notamment justement les poules, les poulets. Actuellement, normalement, ces volailles ne sont pas encore injectées, ni les oies, ni les dindes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays sur le continent américain. Mais normalement, là, pour le moment, c'est que voilà, c'est que les canards. Par contre, il y a effectivement des vaccins ARN messagers auto-amplifiants qui sont déjà prêts, hein, qui sont déjà là, qui existent déjà en Amérique, au Canada et aux États-Unis. Il y a des vaccins ARN messagers auto-amplifiants contre la grippe porcine, voilà, pour les ovins, pour les bovins, pour les volailles. Et il y en a même, justement, pour les animaux domestiques. Il y en a trois. Il y en a un contre la rage, pour lutter contre la rage. Il y en a un qui est pour lutter contre la leucose féline, le FELV, et un pour la grippe canine. Voilà.
Est-ce que
Donc,
ces vaccins animaux ont des alternatives traditionnelles de vaccins atténués ou d'autres types de technologies où on a plus de recul?
alors oui, actuellement c'est le cas, mais par contre, ils veulent les remplacer justement par des vaccins ARN messagers, notamment auto-amplifiants. Et là, c'est un gros problème, parce que les animaux, ben, ça va faire exactement comme pour les humains, hein. On a vu ce que donnait l'ARN messager chez l'humain, ben, vous allez avoir la même chose sur les animaux, et en pire si c'est auto-amplifiant. Il faut savoir que même l'EMA, hein, donc l'Agence européenne du médicament, a accepté, a donné une autorisation de mise sur le marché pour un vaccin anti-Covid ARN messager auto-amplifiant qui s'appelle le Costev. C'est un vaccin qui est déjà utilisé au Japon, déjà depuis plus de 2 ans, voilà, avec des effets délétères très importants.
Donc,
Donc,
en fait, pour l'instant, si je veux traduire dans la vie quotidienne, ce que vous nous dites, c'est que c'est de favoriser le circuit court et notamment européen, où on a beaucoup moins pour l'instant de validation de ces vaccins messagers animaux. Est-ce que vous avez, que plutôt que d'autres continents où c'est déjà en route, donc, est-ce que vous avez des conseils concrets, parce qu'on comprend que ça va devenir un vrai problème de société et de consommation, sur, par exemple, les techniques qui peuvent protéger, parce que c'est de la viande qu'on peut manger, alors là je parlais aussi des œufs, la température est-elle un facteur qui peut réduire? J'avais aussi donc une auditrice qui m'avait demandé si, par exemple, le microbiote, qui est vraiment un sujet sur lequel on travaille beaucoup, il y a beaucoup d'études et beaucoup de publications, est-ce qu'un bon microbiote, un microbiote équilibré peut contribuer, peut constituer une barrière intestinale aussi efficace? Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'action au quotidien pour se protéger des effets potentiellement transmissibles à l'homme à travers la viande, les œufs et...
oui, ben, il faut veiller à un bon fonctionnement du système rénine-angiotensine, hein. Quand le système rénine-angiotensine fonctionne correctement, ben, vous avez un bon microbiote, hein, parce qu'il pilote les microbiotes, hein, dont le microbiote intestinal, mais pas que. Il contrôle aussi le microbiote vaginal, buccal, cutané, nasopharyngé, pulmonaire. Donc,
Donc c'est un
quand il y
niveau
a des dysbioses
d'efficacité plus...
intestinales, c'est qu'il y a un dérèglement du système rénine-angiotensine.
Donc c'est finalement
C'est
là
pour ça.
aussi le point commun avec le travail du docteur Schwartz, c'est qu'on est sur une compréhension plus profonde et plus petite qui peut donc de cette spécialisation qui est la vôtre et qui donne notamment plus des conséquences sur beaucoup de domaines de la santé, beaucoup de fonctionnements biologiques. Est-ce que pour conclure, vous voulez nous redonner justement les conseils, les implémentations que vous conseillez pour l'équilibre de ce système qui est complexe, hein, on l'a compris.
Oui, l'équilibre du SRA, ben déjà, il faut une bonne alimentation, il faut éviter de stresser parce que ça dérègle le SRA.
D'accord.
Quand on a des comorbidités, c'est qu'on a déjà un petit problème avec le SRA, on a déjà le SRA dérégulé, hein. Quand vous faites du diabète de type 2, si vous avez une maladie auto-immune, si vous avez un cancer, si vous faites des troubles gastro-intestinaux, cardiovasculaires, etc., vous avez déjà un problème avec le SRA. Donc, pour que le SRA soit au mieux, c'est-à-dire bien fonctionnel, Idéalement, il faut bien veiller à avoir un taux plasmatique élevé de vitamine D, donc je répète, à 5, plus de 50 nanogrammes de calciol par ml, et
Vitamine
procéder à
D.
une supplémentation, par exemple en magnésium, en zinc, en sélénium, en vitamine K2, en taurine, en oméga-3. Enfin bon, il y a un certain nombre de molécules d'importance, mais le plus important, bon, bien sûr avec les antioxydants, mais le plus important, c'est d'avoir vraiment ce taux élevé de vitamine D. Il faut prendre pratiquement systématiquement aussi avec du magnésium, puisque 80% des personnes manquent de magnésium, et le magnésium est indispensable pour bien faire fonctionner la vitamine D. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au
Merci à
CNRS.
vous
On a
pour
compris que vous parliez en
l'invitation,
votre
et
nom propre
merci
dans
aux
cet
auditeurs.
ouvrage. Dans votre ouvrage, plus rien n'échappe à l'ARN messager, Homme, animaux, plantes, édition Guy Trédaniel, avec effectivement notre confrère Estelle Fougère, journaliste scientifique. Une vraie belle compréhension très profonde, justement, on revenait sur le Covid, mais aussi des vaccins, la technologie ARN messager, et à travers le SRA aussi de la santé en général. Merci à vous et joyeuses fêtes, à très bientôt.
Merci. Merci et bonne fête. Au revoir.
RPL. Au cœur de la Lorraine, 89.2.
89.2. 89.2.
There.